France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. C'est sur un domaine historique à Curgy, en Saône-et-Loire, puisque nous plantons notre décor cette semaine en Saône-et-Loire, qu'Aurore et Bruno se sont installés il y a bientôt 10 ans. Leur domaine est dédié aux légumes anciens, dont une étonnante collection de plusieurs centaines de variétés de tomates. On y apprend à jardiner et à aborder la permaculture. C'est Aurore qui nous attend à cet endroit. Et puis une bonne idée au bénéfice des petites communes. Un Erasmus rural, soit l'offre de participation d'étudiants et d'étudiantes à la dynamisation des espaces ruraux. L'idée revient à l'association INSIT, qui est un des lauréats 2021 de la fondation La France s'engage. Il en sera question dans la deuxième partie de ces carnets.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Aurore Gay, bonjour.
Bonjour.
Aurore, vous êtes passée de la transmission de savoir sur le jardinage bio, la permaculture, le développement durable. Vous êtes passée de la transmission à la production en vous établissant à Curgy.
Oui. Il y a quelques années, on a créé un domaine de 3,5 hectares, un lieu de démonstration, de culture, d'accueil de public, de petits et grands sur le site. Et avec une culture potagère de variétés anciennes, tout en permaculture.
Il y a beaucoup de personnes qui courent après le foncier. Vous y êtes parvenu assez facilement?
Les choses ont été, se sont fait facilement pour nous. Voilà, on était sur notre chemin, donc ça s'est fait. Donc c'était un terrain familial, donc on n'a pas tout eu tout de suite, mais ça a été.
Comment définir le domaine d'Alonis? Ce serait plutôt un éco-centre?
Toute personne, que ce soit un enfant ou un adulte, peut venir sur le domaine, soit en tant que touriste ou habitant local à visiter le lieu, parce qu'il y a des collections de plantes, de fleurs, plantes aromatiques, de légumes anciens de couleur et des parcs d'animaux. Donc on peut simplement visiter en se promenant tous les mercredis et samedis. Et après, on peut aussi, en tant qu'enfant en école, venir en classe verte, en centre de loisirs. Puis après, pour les adultes, il y a des formations mises en place en permaculture, en autonomie alimentaire, en alimentation santé. Voilà, et plusieurs formules pour découvrir le lieu. Mmh. Ou simplement venir cueillir ses légumes.
Oui. Alors, entre autres des tomates, vous avez, avec Bruno, vous avez produit 250 variétés de tomates anciennes.
Oui, alors on est des grands collectionneurs et depuis la création de l'association en 2007, on a collectionné les variétés anciennes et principalement de tomates. Et c'est une passion et on en a de toutes les sortes, de toutes les couleurs, des bleus, des vertes, des rouges évidemment, des jaunes, des creuses, des poilues. Voilà, on en a plein de sortes et elles sont bien meilleures pour la santé. Et c'est un bon outil aussi de sensibilisation à faire découvrir aux petits et aux grands.
Alors cet été, Aurore, ça a été une catastrophe pour les maraîchers, les jardiniers amateurs qui ont vu leurs plants de tomates dépérir sur pied. Et vous prouvez que sans aucun traitement, même pas de purin d'ortie, finalement, elles germent et elles grandissent et elles deviennent, même sans eau, elles gagnent plus en goût et en saveur.
Ah oui, tout à fait. Donc nous, on apprend aux personnes qui viennent qu'une tomate, ça s'arrose juste à la plantation. Et après, on ne fait plus rien, elle se débrouille elle-même. Après, oui, cet été, ça n'a pas été une très bonne année. Donc nous, on a réussi quand même à avoir des tomates. Mais ça n'a pas été une bonne année pour les tomates parce que le climat n'était pas bon pour elles. Donc nous, nos tomates, elles ont même eu une petite faiblesse, celle qui était en extérieur. Mais elles se sont battues quand même. Donc c'est pour ça que j'incite beaucoup les gens à faire des cultures en bio, en permaculture et des variétés anciennes parce qu'ils vont y gagner au point de vue du jardin, de la culture et de la santé.
Et idéalement, il faut pouvoir trouver les graines des variétés anciennes. Est-ce qu'il y a des marchés, un troc, des échanges chez vous?
Alors, il y a des choses qui sont en France mises en place depuis longtemps, hein, comme l'association Coco Pays.
Oui.
Différentes sources, moyens. Il y a des trocs aussi. Moi, j'invite les gens à faire du troc au niveau local. C'est vraiment très utile d'échanger, de bien respecter les règles, par contre, de culture, ça se fait pas n'importe comment. Et puis nous, depuis cette année, on a créé sur notre site un moyen aux personnes d'accéder à ces graines.
Et vous avez un verger conservatoire, et alors vous avez une pratique intéressante. Vous profitez de poules de races anciennes qui permettent de détruire ces fameux insectes qui viennent ronger nos fruits?
Alors, détruire, c'est un peu fort pour nous le mot, mais c'est limité toujours. Il ne faut pas essayer de détruire complètement, c'est travailler avec la nature. Donc on met en place, autant dans le design, l'aménagement, on met bien les plantes au bon endroit et on fait des compagnonnages, que ce soit avec des plantes ou avec des animaux. Donc par exemple, les poules sont un bon compagnonnage du verger parce qu'elles mangent le carpocaps, c'est un insecte qui attaque les pommes ou les prunes par exemple. Et donc quand les pommes tombent, les premières sont verrées, elles tombent au sol, elles sont mangées par les poules. C'est le savoir des anciens, la permaculture, simplement.
Oui. Puis surtout, c'est d'une simplicité extrême, parce que finalement, il y a très peu d'interventions humaines.
Alors au début, si, quand même. Au début, le temps des aménagements, il y a quand même un bon travail. Par contre, au fur et à mesure des années, on a bien fait les choses, on a de moins en moins d'actions. Après, c'est pas simplement on jette les graines par terre et ça se débrouille tout seul, c'est un petit peu plus que ça. Mais malgré tout, plus ça va, voilà, nous, ça fait des années qu'on fait plus aucun traitement. Et quand je parle de traitement, c'était que des traitements de purins de plantes naturels.
Oui.
Donc là, on a fait une biodiversité qui fait que ça s'équilibre.
Il y a des animaux aussi dans ce lieu au nom poétique d'Alonis. C'est en référence à un vieux domaine qui date du 15e siècle, qui dépendait d'un château proche de Curgy.
Voilà, alors le domaine d'Alonis, ça vient du comte d'Alone, qui possédait les terres sur le site et donc qui était frère d'un châtelain. Voilà, toute une histoire sur Curgy par rapport à ça. Et donc, comme nous, on est sur les variétés anciennes, les savoir-faire anciens, on est parti d'un nom historique.
Donc, Aurore et Bruno sont les seigneurs du domaine d'Alonis. Merci, Aurore.
Ben, merci beaucoup à vous aussi.
France Inter, carnet de campagne.
Ça ne manque pas à l'approche des fêtes de fin d'année. Notre messagerie s'encombre de courriers provenant de la filière jouets qui vantent avec plus ou moins de bonheur les mérites de leurs produits. À chaque lecture de ces courriers, je pense à ces jouets qui ont la durée de vie très limitée et dont la majorité provient d'Asie dans un plastique qui va s'ajouter aux montagnes de déchets déjà existants. Pierre s'est fait la même réflexion, d'autant que notre correspondant a travaillé durant 7 ans pour de grands groupes du jouet avant de prendre conscience que cette industrie ne tournait pas vraiment rond. Il lui aura fallu seulement 6 mois pour mettre au point une solution qui répond à toutes les obligations des savoir-faire de l'économie circulaire et de la limite des dommages sur notre planète. Son concept est simple, au point qu'il a baptisé sa première gamme de jeux d'éveil le jouet simple. Les chiffres nous rappellent à l'ordre. 56% des jouets vendus en France sont fabriqués à l'autre bout du monde. Leur durée moyenne d'utilisation est de 8 mois et ils génèrent 100 000 tonnes de déchets difficilement recyclables chaque année. Pour stopper l'hémorragie, Pierre n'a pas seulement fait appel à du matériel recyclé ou matériaux recyclés, mais il a imaginé une consigne du jouet. Après usage, nous sommes donc invités à le retourner à l'entreprise qui va le recycler. L'opération est possible dès lors qu'un seul plastique est utilisé dans la conception de ces jouets. Présenté au salon du Made in France qui vient de s'achever, le jouet simple devrait pouvoir atterrir au pied du sapin pour les fêtes de Noël en décembre prochain. Et pour affiner sa création, notre jeune entrepreneur a réuni autour de lui des spécialistes de la petite enfance et il a réalisé une enquête auprès de 500 jeunes parents, car il n'était pas question de créer des jouets qui ne seraient pas utiles aux enfants et qui ne plairaient pas aux parents. Le site, c'est lejouetsimple.fr. Thibaut Renaudin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président fondateur d'une belle chose, c'est l'association InSite. Pourquoi une belle chose? Alors elle est basée à Termes d'Armagnac, dans le Gers. Pourquoi une belle chose? On en avait évoqué un exemple dans un des derniers numéros du magazine Village. C'est ce que vous appelez un Erasmus rural. Je trouve ça édifiant.
L'idée est très simple, c'était de partir du constat que dans nos territoires ruraux, et vous le dites tous les jours, Philippe Aya, tellement d'initiatives extraordinaires, de gens, des élus locaux, des responsables associatifs, des jeunes, des vieux, qui tous les jours inventent et mettent en place des dispositifs qui répondent aux enjeux de leur territoire. Et ça se fait en permanence. Mais tous ces gens-là, ils ont souvent, en plus du dynamisme et de l'envie, de l'énergie et de l'inventivité, ils n'ont pas de moyens financiers ou très peu de moyens humains, et souvent, ils mènent leurs actions dans le plus grand anonymat. Mmh. Alors nous, on s'est dit à InSite, pour une fois, on va créer un dispositif qui va du bas vers le haut. On va se mettre au service de ces acteurs des territoires. Et donc, on a inventé ce concept d'Erasmus rural, où on dit à des jeunes, ben, l'universalisme, la rencontre, la découverte, l'enrichissement, c'est pas que dans les grands pôles métropolitains européens, c'est aussi dans nos villages, parce qu'il y a une énergie extraordinaire. Et donc, on dit aux jeunes, ben, vous allez vous investir pendant 6 mois au service de ceux qui font tous les jours, et pour pouvoir à la fois vivre une expérience humaine extraordinaire, mais aussi faire en sorte que nos héros du quotidien, ces héros du quotidien dans nos ruralités, ben, on puisse venir appuyer leurs énergies, et on les fait connaître.
Les communes rurales ont très peu de moyens. Quelle est la participation des communes à cet Erasmus rural?
Ces communes-là, comme vous le dites, n'ont pas de moyens. Donc, on leur demande surtout pas d'argent. On leur dit simplement, facilitez-nous l'hébergement de ces jeunes. Faire en sorte qu'ils soient pendant 6 mois des habitants du village. Parce qu'il y a des jeunes qui viennent du village ou à côté, mais surtout, il y a beaucoup de jeunes qui viennent d'ailleurs. Mmh. Et donc, on leur dit, il faut qu'ils soient des habitants. Il faut qu'ils partagent la vie pendant 6 mois. Et donc, les acteurs de territoire nous facilitent l'hébergement, soit chez l'habitant, soit dans des logements communaux, pour que ça revienne soit à zéro, soit à très peu cher pour nos jeunes volontaires.
Ouais, alors, ça donne de nouvelles idées, ça donne de nouvelles ailes, comme vous le disiez. Au bout de 6 mois, on peut s'attacher. Est-ce à dire que les jeunes pourraient trouver là un emploi et servir un nouveau modèle économique de la ruralité?
Oui, et c'est ça qui est extraordinaire. En si peu de temps, j'osais pas le croire il y a 2 ans et demi, c'est que déjà plusieurs dizaines de nos jeunes ont trouvé localement un débouché professionnel. L'idée, c'était de dire, on va miser sur des projets qui n'ont pas de modèle économique. Au début, un café associatif, un espace culturel, un jardin partagé, bon, plein de dispositifs, une boulangerie qui se crée, bon, plein de dispositifs que l'on voit beaucoup dans nos villages, mais il n'y a pas de modèle économique. Et on s'est dit, là, sur le moyen, ça va créer un besoin, et ça va créer, ça va faire en sorte que les gens vont pouvoir avoir un emploi. Et ben, au bout de 2 ans et demi, déjà, on a une vingtaine de jeunes qui ont trouvé, soit directement, soit indirectement, localement, un emploi, alors que c'était des jeunes qui n'étaient pas forcément du village.
Ouais. Que faut-il faire si l'on veut candidater en tant que commune?
Alors, on va sur le site internet d'Incite France, hein, et on prend les renseignements et on s'inscrit directement et on prend contact avec nous, et ça va assez vite.
Évidemment, c'est destiné tout d'abord aux communes rurales, c'est-à-dire moins de, on va dire, 3500 habitants, c'est ça à peu près la définition.
Ah, exactement, nous on est plutôt dans l'ultra-ruralité. Les villages vers lesquels personne ne se tourne jamais, qui n'ont plus de services publics depuis longtemps, qui n'ont plus d'école, etc. Moi, j'ai envie qu'on participe à remettre de la vie dans ces territoires pour rééquilibrer notre pays entre urbanité et ruralité. Nous, on ne s'oppose surtout pas à l'urbanité, ça n'aurait pas de sens. Mais on veut une ruralité ouverte, généreuse, solidaire, ce qu'elle est.
Puis alors, Incite, je signale, c'est pas uniquement l'Erasmus rural, c'est aussi un dispositif que vous avez appelé artisan d'idées, pour faire en sorte que l'on puisse partager de territoire à territoire des initiatives, se connecter, s'inspirer des autres. Et donc vous organisez des cafés de campagne en visioconférence où on présente le maire d'une petite commune, un projet, une initiative locale.
Oui, c'est ça. C'est casser l'atomisation des territoires ruraux. Elle est très forte, cette atomisation, parce que même à 2 villages d'écart, on ne sait pas ce que font nos voisins, et alors nationalement, encore moins. Et donc, comme il y a plein de gens qui font des choses extraordinaires, qui ont aussi besoin qu'on les regarde avec positivité, avec bienveillance et gentillesse, eh bien, c'est un peu le principe d'artisan d'idées, c'est que on fait travailler d'abord nos acteurs de territoire ensemble, puis nationalement, on essaye de connecter le plus possible qu'un petit dispositif à Arjust, petit village dans le sud de la Corse, il puisse servir à un village du département de l'Orne. C'est ça un peu l'idée, mais c'est ce que vous faites tous les jours. Ouais. Là, on vous a un peu copié.
Oui, merci. Bon, bah alors, continuez à copier. On est preneur. On est preneur. Attention, notez bien le nombre de visites, parce que le compteur va peut-être s'affoler. L'adresse est incite-france.org. Merci Thibault.
Merci beaucoup Philippe.
Avant de rejoindre Nicolas Stoufflet en Saône-et-Loire, je reviens justement en Saône-et-Loire avec un festival qui vient de démarrer hier. Il s'appelle Doc en goguette. Il s'agit d'une série de films documentaires diffusés en milieu rural dans 12 villages. Il y a 17 documentaires et ça dure jusqu'au 28 novembre. C'est organisé par l'association Films du Tilleul et la Maison du Terroir de Genouilly. Donc Doc en goguette en Saône-et-Loire pour ce festival rural. rurale du film documentaire.